Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir. On est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et à 19h20, le grand débat. Ce soir, on va vous aider, amis restaurateurs, cafetiers, bistrotiers. Comment faire face? Comment tenir le coup? Alors qu'on se dirige vers des fermetures prolongées pendant encore plusieurs semaines, le click and collect, les chèques gourmands, il existe plein de solutions. Système D, on va vous en parler ce soir avec nos invités, notamment le chef Etchebest. D'abord, le journal à presque 20h avec Isabelle Millet. 19h et non pas 20h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Vous avez des groupes qui perdent 300, 400, 500 000 euros, voire beaucoup plus hein, par mois. Ce qui n'était pas fait préalablement parce qu'on ne pensait pas que la crise allait durer aussi longtemps.
Et la détresse des hôteliers restaurateurs, donc ils ne voient pas le bout du tunnel. Réunion à Bercy cet après-midi et toujours aucun horizon pour une réouverture.
Vaccin, va-t-on rattraper notre retard? De nouvelles catégories et de nouvelles tranches d'âge pourront se faire vacciner plus vite que prévu.
Mais cela sera-t-il suffisant? C'est la question du consentement qui pose problème, disait à la mi-journée sur Europe 1 le professeur Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, il faut simplifier la procédure.
Oui, alors qu'une trentaine de médecins de renom, dont le médecin européen Jimmy Mohamed, signe aujourd'hui une tribune pour interpeller le gouvernement.
Ce démarrage trop lent n'a selon eux aucune justification médicale ou scientifique.
Dans notre journal également, Didier François, spécialiste des questions internationales, nous parlera de cette nouvelle provocation de l'Iran qui a repris ses activités d'enrichissement d'uranium.
Une décision qui pourrait avoir de terribles conséquences sur la stabilité de la région. Et puis on vous emmènera écouter de la musique classique au musée d'Orsay à Paris. Enfin, sur votre canapé, mais au musée d'Orsay quand même.
Eh bien, c'est déjà pas mal. Anissa, vous nous annoncez, vous, le retour du soleil. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
Oui, ça fait du bien de revoir un peu de soleil et d'avoir un peu de vitamine D. Demain, sur toute la moitié sud du pays, il va briller généreusement. Mais attention, le froid est toujours bien là. Et dans le nord-est, c'est encore bien l'hiver avec de la neige. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il compte les jours depuis la fin octobre et il risque de compter encore quelques temps. Les restaurateurs espéraient une réouverture de leurs établissements le 20 janvier, date évoquée hein, par Emmanuel Macron.
Oui, sauf que cet horizon s'éloigne, c'est confirmé. Les restaurateurs ont été reçus à Bercy cet après-midi et malheureusement, Carole Ferry, aucune perspective ne se dessine pour l'instant.
Effectivement, absolument aucune perspective de réouverture. Le doute reste entier, notamment sur la question des vacances de février. Les restaurateurs espéraient obtenir au moins une dérogation dans les zones vertes depuis le début de l'épidémie, mais la porte est restée totalement fermée. Selon le président du GNI, le Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie-Restauration, Didier Chenet, le ministre de l'Économie s'est montré très soucieux de la situation sanitaire, tout en ayant bien conscience de l'impact sur leur secteur.
Là, je tiens à le dire, c'était un soutien extrêmement marqué pour notre profession, nous disant bien que le soutien et les mesures qui ont été prises au mois de décembre seraient maintenues, mais voire même aménagées et, je dirais, élargies, car aujourd'hui, ces dispositions ne satisfont pas, bien entendu, les groupes. Vous avez des groupes qui perdent aujourd'hui 300, 400, 500 000 euros, voire beaucoup plus hein, par mois. Ce qui n'était pas fait préalablement parce qu'on ne pensait pas que la crise allait durer aussi longtemps.
Cela concerne notamment les groupes hôteliers et les chaînes de restauration. Enfin, autre sujet abordé, le remboursement des prêts bancaires. Bruno Le Maire s'est engagé à négocier avec les banques pour obtenir un report des échéances de 2 ans pour les secteurs fermés administrativement.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1 et on en parlera avec nos invités à 19h20 dans le grand débat du Club des idées.
Et pour essayer de rattraper un peu les dégâts du confinement, les commerces pourront ouvrir tous les dimanches de ce mois de janvier au département d'en décider après concertation avec les collectivités et les partenaires sociaux, précise le ministère du Travail. Les librairies ont-elles limité la casse en 2020? Les ventes du secteur reculent de 3,3% comparativement à 2019.
Concernant la campagne de vaccination maintenant, montrée du doigt pour sa lenteur, elle va être élargie aux aides à domicile âgées de 50 ans et plus et aux pompiers. Et le calendrier est également avancé de quelques jours pour les Français les plus âgés.
Victor Dolande, le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer, était l'invité de Patrick Cohen à la mi-journée sur Europe 1 et il a beaucoup insisté sur un point clé, selon lui, cette question du consentement.
Oui, un consentement qui prend beaucoup de temps dans les EHPAD, entre 5 jours minimum pour recueillir l'accord des résidents pour la vaccination et parfois jusqu'à plus de 2 semaines dans certaines maisons de retraite. La faute, selon Alain Fischer, à une surinterprétation du guide de vaccination édité par le gouvernement.
La vaccination dans les EHPAD est compliquée. Elle a peut-être été rendue d'ailleurs un peu plus compliquée par une surinterprétation préconisations concernant les questions de consentement, de timing, etc. Il y a une simplification possible.
Pas besoin de 5 jours pour recueillir ce consentement, poursuit-il. Même la consultation pré-vaccinale a été surinterprétée, selon Alain Fischer. Il faut simplement recueillir des informations basiques, dit-il. Est-ce que la personne n'est pas malade le jour de l'injection ? Est-ce que le patient n'a pas été touché par le Covid dans les 3 derniers mois ? Est-ce que la personne n'a pas reçu le vaccin contre la grippe dans les 3 dernières semaines ? Et enfin, est-ce que la personne à vacciner n'a pas d'antécédents allergiques graves ? Pas besoin donc d'attendre 5 jours entre cette consultation et la vaccination. La cadence peut donc en principe être sérieusement accélérée dans les EHPAD et ce très rapidement.
Précision signée Victor Dolande.
Oui, le professeur Fischer n'est pas le seul à souhaiter que cette campagne de vaccination s'accélère. Une trentaine de médecins signent aujourd'hui une tribune afin d'interpeller le gouvernement.
Et vous faites partie de ces signataires. Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous êtes le médecin d'Europe 1, alors les auditeurs vous connaissent bien. On a entendu que ça va s'accélérer hein, cette campagne de vaccination, mais vous trouvez que ça ne va pas encore assez vite et dans cette tribune, vous faites des propositions.
Oui, puisqu'on sait qu'il n'existe aucune raison scientifique ou médicale de retarder le déploiement à grande échelle de la vaccination. La vaccination, c'est une course contre la montre. On l'a débutée en vaccinant les plus fragiles, les personnes dans les EHPAD. On sait que c'est un tiers des décès, mais ça veut dire qu'il y a 2/3 des décès hors EHPAD. Et donc, il faut protéger les gens en commençant par protéger les soignants. Vacciner tous les volontaires et ne pas mettre de limite d'âge ou de comorbidité. Et puis ensuite, vacciner les personnes de plus de 65 ans qui seraient volontaires. On propose aussi d'acheter des vaccins.
Mais on pourrait en acheter où de ces vaccins ? Il y en a quelque part encore ?
On est bloqué par l'Union européenne. Et donc, pourrait peut-être s'inspirer d'autres pays comme Israël, par exemple, qui a fait en sorte d'acheter suffisamment de vaccins. Et je pense qu'on peut activer certains réseaux pour se débrouiller pour avoir des vaccins, quoi qu'il en coûte. Rappelez-vous de cette expression du président, c'est celle qu'il avait utilisée. Et encore une fois, c'est une course contre la montre. On a perdu beaucoup de temps. Le variant anglais est présent sur le territoire. Martin Hirsch le disait, ça veut donc dire que l'épidémie anglaise peut arriver chez nous et être transposée à Paris, en France, en Île-de-France. Et donc par conséquent, le mois de mars 2021 pourrait être peut-être pire que le mois de mars 2020 si nous ne faisons pas quelque chose rapidement. On a perdu assez de temps, il faut accélérer le mouvement.
Il y a la question du nombre de vaccins, de l'accélération de cette campagne. Et puis il y a aussi la logistique qui semble un petit peu compliquée. Vous voudriez qu'elle soit confiée à quelqu'un en particulier ?
Oui, alors l'histoire de logistique, on peut le comprendre que ce soit plus difficile. Il y a la conservation, moins 80 degrés avec des super congélateurs, c'est compliqué. Mais ça reste, à mon sens, accessible et on pourrait proposer de confier justement cette opération à une task force vaccinale qui disposerait de pouvoirs un peu plus étendus pour rendre compte de façon transparente et quotidienne l'utilisation des vaccins et qu'on en sache un peu plus.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. On vous retrouve tous les jours à 15h dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez et à 8h35 dans la matinale de Mathieu Béliard.
Merci Doc pour ces bons conseils. Et on précise que la situation sanitaire en France sera au cœur demain d'un nouveau conseil de défense alors que l'on apprend que l'Allemagne prolonge et renforce ses restrictions et cela jusqu'au 31 janvier.
Oui, ça y est, c'est fait. Les Allemands sont invités à réduire encore davantage leurs contacts. La plupart des magasins, des bars, des restaurants et les écoles vont rester également fermées.
Et on apprend qu'il y a eu plus de 20 000 contaminations en France, donc ça progresse ces dernières 24 heures. À noter que les experts de l'OMS qui sont en route pour la Chine où elle doit enquêter sur l'apparition du virus n'ont apparemment pas reçu les autorisations nécessaires pour effectuer cette mission. Concernant maintenant les conséquences économiques de cette crise, la Banque mondiale abaisse sa prévision de croissance pour 2021.
Oui, le PIB mondial devrait progresser de 4% cette année contre 4,2% annoncé en juin. La Banque mondiale qui redoute des crises de l'endettement en série. Une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle après la publication d'extraits d'un livre mettant en cause le politologue Olivier Duhamel. Il est soupçonné d'avoir agressé son beau-fils alors âgé de 13 ans. Les faits remontent à la fin des années 80.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h09 avec Isabelle Millet. Dans l'actualité, on parle également de cette violation extrêmement grave de l'accord sur le nucléaire iranien que vient de confirmer donc l'Agence internationale de l'énergie atomique. La République islamique d'Iran a bien relancé son programme d'enrichissement d'uranium.
Et en ce, en totale contradiction avec ses engagements de non-prolifération, on en parle ce soir sur Europe 1 avec notre spécialiste des affaires stratégiques, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier, c'est une décision qui pourrait avoir de terribles conséquences sur la stabilité de la région.
Oui, et d'abord parce qu'elle a été imposée par les durs du régime, les mollahs les plus conservateurs, proches du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, dont on peut légitimement se demander s'il ne cherche pas à faire purement et simplement capoter toute chance de ressusciter l'accord de 2015. Ce compromis qui avait, vous le savez, permis d'obtenir un démantèlement négocié du programme nucléaire irakien. Alors, il avait certes été dénoncé par Donald Trump, mais Joe Biden a clairement fait savoir qu'il était tout à fait disposé à y revenir. Il est donc très inquiétant de voir que cette décision a été prise 2 semaines seulement avant l'entrée en fonction du nouveau président des États-Unis et alors que Donald Trump est toujours à la Maison-Blanche, toujours en capacité de réagir très brutalement à une telle provocation, parce que l'enrichissement de l'uranium à 20% ne peut avoir qu'un seul et unique objectif, créer un stock de matières fissiles de qualité militaire pour réaliser des têtes nucléaires. Un isotope d'une telle qualité n'a aucune utilité civile, ni dans le domaine de la recherche, ni dans la production d'électricité. Si les dirigeants iraniens remettent en fonctionnement les cascades de centrifugeuses installées dans l'usine souterraine de Fordo, eh bien, ils seront à moins d'un an de la fabrication d'une bombe atomique.
C'est une perspective évidemment inacceptable pour Israël, comme pour les monarchies du Golfe d'ailleurs.
Absolument. Donc les durs du régime de Téhéran prennent sciemment le risque d'une confrontation au cours des 2 semaines qui viennent. Alors, tout en faisant le calcul que la fenêtre de tir est trop courte pour que les États-Unis puissent organiser une riposte coordonnée, ils estiment qu'ils seraient alors pourtant en meilleure position face à Joe Biden s'il venait à reprendre les négociations et s'il voulait leur imposer de nouveaux compromis, par exemple sur les missiles balistiques. Et c'est également une façon d'obliger le nouveau président américain à placer la question iranienne au nombre de ses priorités. Les sanctions économiques étaient à l'œuvre. L'Iran s'enfonçait dans la crise et Washington pouvait effectivement penser que le temps jouait en sa faveur. Eh bien, clairement, ce n'est plus le cas.
Merci beaucoup Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Aux États-Unis, tous les yeux sont tournés vers l'État de Géorgie où se déroulent 2 élections sénatoriales capitales. L'enjeu, c'est l'avenir du Sénat américain et du futur mandat donc de Joe Biden. Si les démocrates remportent les 2 élections, alors ils auront la majorité de cette chambre dominée aujourd'hui par les républicains. Et puis assister à un concert de musique classique depuis votre canapé. Vous commencez malheureusement à en avoir l'habitude hein, maintenant qu'on ne peut plus sortir. Sauf que le concert que nous vous proposons ce soir se déroule dans un lieu exceptionnel.
Double magie donc, puisque vous serez au cœur du musée d'Orsay à Paris.
Un beau lieu et de la belle musique, Angèle Châtelier.
20 musiciens de l'ensemble Les Apaches ont joué pendant 1 heure au cœur de la nef du musée d'Orsay, entouré d'œuvres d'art prestigieuses. Pour le chef d'orchestre Julien Masmondet, il y avait quelque chose de presque mystique.
On avait l'impression de dialoguer avec les œuvres d'art. On a joué, l'orchestre a joué au milieu des sculptures. Bien qu'on joue dans un musée, la musique classique et même les œuvres d'art ne sont pas figées. À travers la relecture, de revisiter toujours des œuvres et de créer de nouvelles, et ben on parle tout simplement de notre temps, on parle de l'histoire, mais on parle aussi de nous-mêmes.
Au programme de ce concert, des œuvres qui interrogent la nature. Histoire naturelle de Maurice Ravel, La création du monde de Darius Milhaud. Car mi-décembre, le musée d'Orsay aurait dû inaugurer l'exposition Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Alors la vidéo est entrecoupée de tableaux présents à l'exposition reportée sur la voix du baryton Stéphane Degout. Un concert à découvrir sur la chaîne YouTube du musée d'Orsay.
Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir.
C'est ce qu'on va faire ce soir.
On se branche depuis son canapé sur le musée d'Orsay avec ce concert de musique classique. Merci Isabelle.
À demain.
À demain. Interrogation d'ailleurs sur le musée et sur le concert, hein, demain à 18h. Merci Isabelle. La météo. Alors pour l'épiphanie, demain, certains auront la chance, écoutez bien le jeu de mots, de manger la galette du soleil.
Bah ouais, c'est bien de manger une petite galette au soleil. Alors on ne sera pas en t-shirt non plus, mais c'est vrai que tout le long de la façade atlantique et au bord de la Méditerranée, eh bien vous aurez la chance demain d'avoir un soleil très généreux tout au long de la journée. Attention tout de même, dans le sud-ouest, pas mal de brouillards matinaux, parfois givrants, mais dès que ces brouillards se seront dissipés, le soleil sera là. Alors ailleurs, c'est autre chose. Hein. De l'Alsace jusqu'au bassin parisien, sur le grand quart nord-est, là le ciel est toujours très couvert, avec même sur la Bourgogne et le centre, quelques petits flocons encore demain. En Bretagne et sur le Cotentin, toujours un temps qui reste instable, agité avec des averses sur le littoral, mais le vent se calme. Et puis les températures, elles restent froides, bien froides, en dessous des normales de saison. Moins 8 à 4 degrés demain matin.
Ne me dites pas qu'il va faire 12 encore, ça va m'énerver. Hein.
0 à Marseille et 2 à Paris. Et puis dans l'après-midi, moins 1 à 11 degrés. Nous aurons moins 1 à Langres et 11 pour Bastia.
Et ben voilà, 11 à Bastia.
Vous voulez que je vous dise autre chose ? Allez, petite prévision du week-end. La France sera coupée en deux.
Oui.
neige et froid pour la moitié sud, grand et beau soleil printanier pour la moitié nord.
Ah bah voilà, vous êtes content. Renversé, comme on dit.
Voilà.
Et vous êtes plutôt pâte feuilletée ou frangipane, vous?
Moi, je suis brioche des rois, parce que je viens du sud. Ah, bah, excusez-moi,
d'accord,
avec les fruits confits.
Demain, dégustation pour tout le monde. Alors, merci Anissa, à demain à partir de 18h. Dans quelques secondes, le grand débat au chevet ce soir des restaurateurs. Comment les aider? Comment tenir le coup? D'abord, la carte blanche politique signée ce soir, Anne Rosencher.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes impuissant. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Anne Rosencher.
Bonsoir.
Directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Mes meilleurs voeux d'abord.
Mais
le
oui,
meilleur pour meilleur vous pour 2021.
Et aux auditeurs.
Et c'est vrai qu'en ce 1er janvier, le Brexit est officiellement entré en vigueur. Alors, belle année ou non pour les Britanniques, je ne sais pas, chacun jugera. Mais vous vouliez en profiter pour adresser un salut amical à nos amis anglais.
Mais oui, tout à fait. Parce qu'il y a 4 ans et demi, en effet, près de 52% des Britanniques ont exprimé par voie référendaire leur souhait de quitter l'Union européenne. Et depuis, de négociations en rebondissement, le Brexit a fait son chemin chahuté et chaotant. Et voilà donc que le verdict des urnes vient d'être respecté. Les Britanniques auront-ils à le regretter? Certains le prédisent et promettent les plus grandes difficultés aux sécessionnistes, pendant que d'autres, au contraire, prophétisent le paradis souverainiste.
Alors, qui a raison, Anne?
Eh bien, en vérité, personne ne peut avoir de certitude, parce que ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux relèvera un jour de l'histoire. Et le propre de l'histoire, Julien, c'est qu'elle n'est pas et elle ne peut pas être écrite d'avance. Alors beaucoup supputent, fantasment, comme vous savez les cartographes médiévaux qui, pour désigner les territoires encore inconnus, inscrivaient en lettres calligraphiées « Ici sont les dragons ». Exactement. L'inédit, l'inexploré sont toujours intimidants, propices aux craintes et parfois aussi à la mauvaise foi.
Pourquoi la mauvaise foi?
Mais parce que je pense que certains promettent les dragons aux Anglais, voire même parfois le leur souhaitent, pour dissuader d'autres peuples de l'Union d'avoir eux aussi des velléités de divorce. Je comprends la logique, mais ça me semble une mauvaise idée que de vouloir obtenir par la crainte ce que l'on ne parvient plus à susciter par l'enthousiasme ou par la conviction. Il faut à tout prix analyser le désamour de certains pour l'Union européenne et tenter d'en tirer les leçons politiques vitales pour la suite, plutôt que de miser sur la peur. Franchement, je me demande parfois si nos gouvernements ne perdent pas un peu leur éthique démocratique quand il s'agit de ces questions-là.
Alors là, il va falloir s'expliquer. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par les
Anne? D'abord, il y a ceux qui disent en off qu'on ne devrait jamais consulter les peuples sur ce genre de sujet qui leur échappe. C'est à se demander même.
Les anti-référendums.
Voilà. C'est à se demander si certains parmi nos dirigeants ou nos élites ne rêvent pas d'un nouveau régime censitaire, comme si les affaires du pays et du monde étaient devenues choses trop complexes pour ne pas être décidées par les seuls experts. Au reste, rappelons que en France, nous nous sommes allègrement assis sur l'issue du dernier référendum sur la Constitution européenne en 2005.
C'est vrai, c'était en 2005, où le non l'avait emporté.
Exactement, et c'est pour ça que je trouve un peu malvenu qu'on fasse aujourd'hui la leçon aux Anglais, comme notre secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, qui a récemment mis en garde contre, je le cite, le charme de la frontière et de la souveraineté nationaliste. On remarquera au passage l'emploi du terme nationaliste.
Petite référence au Rassemblement national.
Et non national, avant d'ajouter que c'était une fable et un mensonge. Encore une fois, je ne sais pas, Julien, si les Britanniques s'en mordront les doigts ou pas. Mais qu'on soit pour ou contre le Brexit, qu'on pense que ça profitera ou non à la Grande-Bretagne, qu'on aurait soi-même voté pour ou contre, il faut saluer, je pense, les gouvernants et l'élite anglaise qui étaient eux-mêmes souvent pour rester dans l'Union, et qui ont malgré tout respecté l'issue du scrutin. Ces beaux joueurs, et même, je vais vous dire, c'est profondément démocratique. Alors n'ayons pas de rancœur, bonne année et bon vent à ce grand peuple ami et voisin.
Et si demain ils veulent revenir dans l'Europe, on les accueillera sans doute avec grand plaisir.
Pas.
On verra.
On verra.
Un autre référendum. Merci Anne Rosencher pour cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, et ce soir dans le débat du Club des Idées à 19h20, on va donner la parole à nos restaurateurs. Comment les aider à surmonter la crise? Une réunion vient de se tenir à Bercy avec les différents responsables de la filière. Et ça s'annonce, pour être honnête, plutôt mal pour une réouverture le 20 janvier, comme cela avait été évoqué par le président de la République. On estime que 30% des entreprises du secteur pourraient par conséquent déposer le bilan. Restaurants, cafés, bars, alors comment font-ils pour garder le contact et tenir le coup? On va tâcher ensemble de trouver des astuces et des solutions pour les aider. Avec nos invités ce soir, Vangelis Panayotis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de MKG, groupe spécialiste du tourisme, avec également Hervé Beckham, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, et avec le chef Philippe Etchebest, bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors d'abord, est-ce que vous confirmez Hervé Beckham ? Je crois que vous étiez aussi à Bercy avec les responsables de cette réunion importante pour les restaurateurs. Est-ce que vous confirmez que les choses sont actées ? Il n'y aura pas de réouverture avant plusieurs semaines ?
Écoutez, je livre mon intime conviction en vous disant que oui, nous ne serons pas ouverts le 20 janvier, même si Bruno Le Maire ne nous a rien dit sur cette éventualité d'ouverture ou de maintenir fermé.
Mais ça semble mal parti, c'est ce que vous dites.
Oui, tout à fait.
C'est les signaux que vous avez eus de la part de...
Le sentiment qu'on en retire à la sortie des quatre présidents d'organisations professionnelles qui étaient là, elles-mêmes, on ne sera pas ouvert le 20 janvier.
Ça, c'est sûr. Il n'y aura pas d'ouverture le 20 janvier. Est-ce que vous avez une échéance ? Est-ce que vous avez une date ? Est-ce que vous avez un cap ?
Non, justement, il ne nous a pas donné la confirmation que ça ne sera pas ouvert le 20 janvier, mais il ne nous a pas non plus donné de date, mettant en avant l'inquiétude majeure du gouvernement aujourd'hui, qui est celle d'éviter un nouveau confinement.
Oui.
Qui les inquiète beaucoup parce que...
On a vu
que
les derniers chiffres avaient plus de 20 000 contaminations ces dernières 24 heures, c'est vrai que les
Le développement du virus mutant sud-africain qui... voilà.
Réaction, chef Philippe Etchebest, à ce qui vient d'être dit. D'abord, est-ce que vous comprenez cette décision ? Est-ce que vous étiez vous-même au courant ? Est-ce que vous la prenez comme une nouvelle trahison ?
Non, j'étais pas au courant du tout, mais je m'en doutais. c'était une évidence que nous ne soyons pas ouverts le 20 janvier, compte tenu de la reprise des contaminations. Et puis avec les vacances et les fêtes, il était bien sûr aussi évident que ça allait augmenter et qu'on resterait fermé. Bon, la chose positive, c'est qu'on ne pourra pas nous accuser, nous les restaurateurs, d'être responsables de ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous sommes fermés depuis le mois d'octobre.
Oui. Vous êtes consulté, vous avez de temps en temps le président de la République qui vous appelle pour prendre le pouls, pour échanger avec vous ?
Non, mais il ne faut pas croire que le président m'appelle et que je suis un interlocuteur privilégié du gouvernement. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Bruno Le Maire il y a très longtemps et avec M. Griset, mais de manière très, très ponctuelle.
Oui. Alors, on rappelle les chiffres, hein, parce que c'est terrible ce qui est en train de se passer pour les restaurateurs, pour les bistrotiers, pour les cafetiers. 75 000 restaurants sont fermés aujourd'hui en France. 3 000 discothèques qui sont fermées maintenant depuis quasiment un an, 40 000 bistrots qui sont concernés par ces fermetures en 2020. Évidemment, Vangelis Panayotis, l'impact économique est très important. Est-ce que les mesures de soutien, à votre connaissance, permettent à ces patrons d'établissements de tenir le coup ?
Alors, pour certains, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on parle de faillite, de défaillance d'une grande partie des acteurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aides qui ont permis à survivre, mais c'est des métiers de passion. Hein, quand vous choisissez de faire des métiers qui sont aussi difficiles au quotidien, être en cuisine, être en salle, c'est parce que vous avez la passion. Donc il y a aussi le facteur psychologique pour tous ces entrepreneurs et tous ces gens qui travaillent dans ce secteur. Et c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un point qu'on oublie beaucoup, c'est aussi tous les jeunes, parce que c'était un secteur qui était en tension au niveau de l'emploi avant ce qu'on a vécu depuis le mois de mars. Et ces jeunes, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les perde en route. C'est aussi une des victimes collatérales de la situation et ils n'ont pas beaucoup d'aide.
Mais pour les patrons, c'est terrible. Quand vous mettez 200 000, 300 000, 400 000 euros dans une affaire, que vous ouvrez votre affaire, il y en a plein partout en France qui ont ouvert leur affaire juste avant le début du premier confinement et qui aujourd'hui ont envie de baisser les bras, qui se sentent démunis et qui disent on va être obligé de baisser le rideau. Elles sont suffisantes d'ailleurs, Hervé Beckham, les aides qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement. Alors on les rappelle, il y a le chômage partiel, il y a la possibilité de décaler ses charges, il y a le crédit d'impôt pour les bailleurs, on va en parler pour éviter le paiement des loyers, mais qui n'est pas obligatoire. Il y a une aide importante, 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires mensuel. Et puis, il y a évidemment les prêts garantis par l'État. Est-ce que tout ça, c'est suffisant ?
Écoutez, c'est sûrement pas suffisant pour les exemples que vous venez de citer tout de suite de tous ces exploitants, ces nouveaux exploitants
qui viennent de débuter,
parce que pour eux, il est impossible d'établir des bases sur lesquelles peuvent s'appuyer les aides qui pourraient leur être dues.
Si on n'a pas de bilan, forcément, on n'a pas d'aide.
Et donc, pour eux, la situation est dramatique. Quoi qu'on essaie de faire avancer ce dossier, il semble piétiner. Et ça n'a pas fait partie, en tout cas, des priorités de cet après-midi.
Oui. Philippe Etchebest, comment vous tenez le coup, vous, et ceux qui vous entourent dans cette période évidemment compliquée, et surtout sans cap. on peut imaginer que les restaurants restent fermés jusqu'au mois de mars. Maintenant, tout est possible.
Oh oui, c'est ça, oui. Absolument, oui. Il n'y a pas beaucoup de perspectives pour l'instant claires. Néanmoins, je voudrais revenir sur les aides. Vous avez parlé de 10 000 euros ou 20 %. Alors, il faut savoir que ces 10 000 euros, il fallait être dans des seuils d'éligibilité et tout le monde n'y a pas droit.
C'est vrai.
En ce qui concerne les 20 %, ça a été annoncé effectivement pour le mois de décembre. Il devait y avoir les dossiers qui devaient être et qui pouvaient être consultés à partir du 4 janvier. Mmh. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à accéder à cette déclaration. Donc, on attend toujours. Et puis, à chaque fois, sur les 20 % annoncés, il y a toujours des petites lignes qui se rajoutent. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que tout le monde ait droit aux 20%.
Est-ce que vous auriez préféré, vous, Philippe Etchebest, rouvrir votre établissement, quitte à avoir des protocoles sanitaires, évidemment, très rigoureux, et le couvre-feu ? Parce que le couvre-feu, c'est un handicap énorme, même si vous pouvez ouvrir demain. Je vous pose la question parce qu'il y a certains restaurateurs, comme Xavier de Namur, que vous connaissez peut-être, qui disent « il vaut mieux rester fermé que de vivoter et de mourir ».
Non, alors je suis absolument d'accord. On a déjà eu des mesures restrictives sanitaires qui étaient très importantes après le premier confinement, qui amputaient beaucoup d'établissements à hauteur de 30, 40, voire même 50% du chiffre d'affaires. Et le mode économique, pour beaucoup, n'était pas viable. Donc ça ne servait absolument à rien d'ouvrir pour perdre de l'argent. Et si aujourd'hui, on nous dit, ok, vous pouvez ouvrir, mais on va vous mettre 8 mètres carrés, 8 mètres entre chaque table. Et à 18h, il faut fermer vos établissements. Ça ne sert absolument à rien d'ouvrir, bien sûr.
Alors, Vangelis Panayotis, sur les aides, et puis après, on passera aux solutions, parce que j'ai envie qu'on soit concret aussi ce soir. On a repéré plein de choses en France, on en parlera ensemble. Sur la question des loyers, c'est une question très importante pour les restaurateurs. Moi, je suis petit-fils de restaurateur et je sais l'importance du loyer quand on est patron d'établissement. Est-ce que c'est suffisant ce qui a été mis en place ? C'est-à-dire que le gouvernement avait demandé aux bailleurs d'effacer le loyer de novembre en échange d'un crédit d'impôt, mais plus de 50% des bailleurs, visiblement, ont refusé. Est-ce que le gouvernement n'a pas été un peu naïf, d'une certaine manière, de laisser penser que les bailleurs, d'un coup de baguette magique comme ça, pouvaient annuler les loyers pour les restaurateurs ?
Alors, c'était clairement le grand point noir. On parlait tout à l'heure qu'il y avait des zones d'ombre sur les aides, donc tout le monde n'en a pas bénéficié. Mais sur les loyers, ça a été un sujet qui a été défendu depuis le début par les organisations syndicales, l'UMI en tête. Et c'était clairement un point qui avait été identifié. C'est une des principales charges avec les salaires qu'on a quand on est dans la restauration.
Oui.
Donc certains étaient propriétaires de leurs murs, mais il y en a beaucoup qui louent, et qui louent en plus dans des emplacements où il y a beaucoup de fréquentation, donc c'est assez élevé.
Oui.
Et puis après, il y a toute une chaîne de responsabilités. Ceux qui louent ont aussi des emprunts, etc. Il y avait quand même tout un tas de choses à mettre en place qui étaient assez compliquées. Et c'est resté l'une des principaux points de discussion avec les propriétaires. Oui, c'est un sujet qui est encore un problème à date.
Bien, on continue d'en parler dans quelques secondes, 19h29, et puis on évoquera les solutions, car il y en a, sans doute pas suffisantes. Mais vous allez voir, on a sillonné la France et on a repéré quelques petites pépites pour aider nos amis restaurateurs. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30 ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse à nos restaurateurs, bistrotiers, cafetiers également. Comment les aider à surmonter la crise alors qu'une réunion vient de se terminer à Bercy, on l'évoquait juste avant la pause, et qu'une réouverture le 20 janvier semble pour l'instant totalement exclue. C'est ce qu'on disait avec nos invités, les restaurateurs qui pourraient rester malheureusement fermés encore plusieurs semaines. Donc on va tâcher de trouver des solutions et on a trouvé quelques petites choses. La France du système D, en attendant mieux, par exemple, la vente à emporter. On en a beaucoup parlé, extrait d'abord d'un restaurateur qui pratique la vente à emporter devant son établissement. Il est propriétaire de 4 restos à Paris. Il est au micro de Pierre Herbulot.
On a des emballages éco-responsables pour faire de la vente à emporter. On a fait la proposition au maire de pouvoir mettre des espaces de vente à emporter sur ces terrasses qui seront vides quand il va neiger et pleuvoir. Diriger, c'est prévoir, il faut anticiper. On n'attend pas les directives pour nous se mettre en ordre.
Voilà, Hervé Beckham, qui est toujours à mes côtés, vice-président de l'UMI, Union des métiers des industries de l'hôtellerie, qui était d'ailleurs tout à l'heure avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour parler de la suite et de l'avenir, de la réouverture ou non des hôteliers et des restaurateurs. Ça fonctionne bien, ça, la vente à emporter ? Est-ce que ça permet, même si ça ne remplit pas la caisse, évidemment, mais est-ce que ça permet de pallier quand même le manque d'activité lié à la fermeture des restaurants ?
Indéniablement, ceux qui ont pratiqué la vente à emporter pendant ces périodes de confinement, ils ont trouvé un petit palliatif, effectivement, à leur manque d'activité.
On a une idée du pourcentage d'activité que ça peut représenter quand on est à zéro parce qu'on est fermé.
Je vais vous donner un exemple précis parce que je suis aussi, au-delà d'être vice-président de l'UMI, je suis hôtelier-restaurateur dans le Finistère.
Où ça ? Où ça dans le Finistère ?
Comment ?
Où ça dans le Finistère ?
À Plouidère.
À Plouidère, d'accord. Bonjour à nos amis bretons.
Dans le nord du Finistère, au nord de Brest.
Oui.
Et mon établissement,
pas loin du Conquet.
Mon ex-établissement, je l'appelle quand même comme ça, parce que c'est aujourd'hui ma fille et mon gendre qui l'exploitent, ont pratiqué effectivement et se sont initiés à cette vente
emportée. Et ça fonctionne ?
Écoutez, ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Ça a nécessité de l'adaptation de la part des équipes et même de la part des dirigeants. Ça a nécessité de l'adaptation dans la manière de fonctionner, dans la manière de fabriquer, dans tous les process. Mais ça fonctionne, il faut avouer que ça a fait un tout petit peu d'activité, notamment à Noël et au jour de l'an.
Ça peut avoir cette vertu-là, si je puis dire, pardon, hein, parce que je sais que la situation est terrible, mais ça peut avoir cette vertu-là. La fermeture prolongée des restaurateurs, Vangelis Panayotis, vous êtes président de MKG Group, spécialiste du tourisme, ça peut enclencher un changement d'approche dans la relation client. C'est intéressant ce que dit monsieur, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la vente à emporter ou le click and collect, on va en parler, qui marche très fort dans les villes, est en train d'infuser aussi dans les campagnes.
Bah c'est un peu un palliatif, parce que c'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ça. Faire de la haute gastronomie à emporter, c'est évidemment assez compliqué, et puis vous avez aussi tout le côté de l'expérience.
Mais pas forcément de la haute gastronomie, on peut avoir un petit bistrot de village, une petite brasserie, et faire des plats emportés, c'est possible ça.
Oui, bien sûr, c'est possible, puis les gens ont envie, hein. D'ailleurs on voit que quand les restaurants sont ouverts, chacun va venir toquer à la porte, voir ce qu'il y a à faire, dès que les restaurateurs mettent la carte et la vente à emporter, ils voient que les habitués reviennent parce qu'ils ont tous des saveurs en mémoire, ils ont envie de retrouver un petit peu ces bons plats préparés. Mais une fois de plus, vous avez précisé, c'est vrai que ça s'infuse sur le tissu plutôt rural. Ça reste encore très urbain parce qu'on arrive à avoir la volumétrie qui fonctionne bien. Et c'est un palliatif en attendant de retrouver l'expérience aussi.
Et puis ça crée du lien social. C'est important ça aussi avec nos restaurateurs et nos cafetiers de recréer du lien social. Philippe Etchebest, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du click and collect notamment, qui fonctionne très bien en milieu urbain, c'est vrai, mais aussi de cette vente à emporter qu'évoquait à l'instant Hervé Beckham dans le Finistère Nord?
Écoutez, moi, pendant le premier confinement, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'avais avec mon groupe de travail, beaucoup d'actions, beaucoup d'échanges et essayer de trouver des solutions pour subvenir aux besoins des restaurateurs. Oui. Et venu le deuxième confinement, auquel je ne m'attendais absolument pas, qui a été un vrai choc. Et là, je me suis dit, j'ai plus le choix, parce que supporter 2 mois et demi de fermeture à la limite, mais 3 mois, 4 mois de plus, c'est impossible. Donc, je me suis mis à faire du click and collect.
Et ça fonctionne ?
Écoutez, ça fonctionne. Au mois de novembre, j'ai pas réussi à couvrir mes frais fixes. Aujourd'hui, j'ai des frais fixes, mais comme je vous l'ai dit, j'ai aucune aide, parce que je rentre pas dans les seuils d'éligibilité. Donc je l'ai fait au mois de novembre, j'ai pas tout à fait couvert mes frais fixes. J'ai au mois de décembre continué, ça a été un peu mieux parce qu'il y a eu les fêtes bien évidemment, mais au-delà de faire ça, ça permet de garder le contact surtout avec les équipes, de les garder en partie en activité, en tout cas de faire tourner. Puis je vais vous dire un truc, les gens au premier confinement, ils faisaient à manger chez eux, c'était rigolo, c'était vachement bien, mais là ils en ont marre de faire à bouffer chez eux. Donc par la force des choses, ils viennent dans nos établissements chercher des repas tout près.
Alors, ça
dure qu'un temps, ça.
Ce qui est embêtant, c'est qu'avec le couvre-feu à 20h partout en France et puis à 18h dans un peu plus d'une dizaine de départements, surtout dans le Grand Est, c'est plus possible le click and collect. On ne peut plus venir chercher à manger dans son restaurant préféré, ou alors il faut le faire avant la fin du couvre-feu. Mais ce qui est possible, c'est toujours la vente par les livreurs. Les livreurs sont autorisés, eux, à travailler après le couvre-feu, mais évidemment pas le click and collect. Est-ce que ça vous pénalise, ça, Philippe Etchebest ?
Écoutez, nous, sur Bordeaux, on ferme à 20h, à 19h30. Donc, on a des gens qui arrivent encore à s'organiser et à 18h30, 19h, venir chercher leur click and collect de manière normale. Et puis après, on se dit que de toute façon, compte tenu du peu de Uber qu'il peut y avoir derrière, ça ne sert à rien de rester ouvert. Donc, on ferme. Et puis, je vais vous dire un truc, hein, à un moment donné, alors, au-delà de se réinventer, parce que j'ai horreur de ce mot-là, réinventer, ça veut dire qu'on repart de zéro et on change tout. On fait preuve de résilience, on essaie de s'adapter, de trouver des solutions pour pouvoir survivre aujourd'hui. Et c'est là où on en est aujourd'hui, nous, les restaurateurs, comme d'autres. Hein. Bien sûr, il y a énormément de métiers qui sont impactés à cause de nos fermetures, mais on essaie juste de trouver des solutions en attendant. que véritablement, il y a des aides qui arrivent de manière concrète et suffisante pour qu'on puisse survivre à ces fermetures.
Alors, on va continuer à balayer les initiatives qui émergent un peu partout en France. Simplement pour terminer et pour que chacun ait les choses à peu près en tête, à Paris, par exemple, la vente à emporter, ça représente tout de même entre 10 et 35% du chiffre d'affaires des restaurateurs. Donc, ça n'est pas négligeable. Et puis, je voulais... Ça n'est pas à Bordeaux, mais ce n'est pas non plus très très loin dans le sud-ouest, à Mimizan, dans les Landes. Un site internet pour venir en aide aux restaurateurs, c'est un site internet qui recense les restaurants, qui proposent des plats emportés de livraison à domicile. Donc c'est intéressant aussi, il y a des élus locaux, il y a des citoyens qui se mobilisent aussi pour aider les restaurateurs. Ce coup de main, Hervé Beckham, vous êtes tout le vice-président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, vous le ressentez dans la population, vous sentez qu'il y a un besoin aussi d'aider les restaurateurs auxquels, encore une fois, les Français sont très attachés.
Oui, et je rejoins...
Ah, c'est la monde qui parle, c'est pas le restaurateur. Allez-y.
Pour rejoindre ce que disait Philippe Etchebest tout de suite, oui. Il est vrai que ce moyen de click and collect ou de vente de plats emportés est un moyen extraordinaire pour garder de la relation avec ses clients. De garder de la relation avec ses équipes, de pouvoir permettre de faire tourner les équipes, qu'elles restent au contact et qu'elles continuent à avoir l'envie très forte qu'ils expriment et qu'elles expriment, ces équipes, de travailler et de recommencer à travailler. Maintenant, il est vrai que cette formule de plat emporté, enfin du moins de livraison de plats, elle est beaucoup plus urbaine, et voire quasi strictement urbaine que...
Non mais c'est vrai, Vangelis Panayotis, peut-être un mot là-dessus. C'est vrai que c'est très urbain, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des plateformes, voilà, c'est un peu le système D, c'est vrai, enfin, faut le dire, qui sont en train de se mettre en place partout sur le territoire, dans des régions où habituellement on ne pratique pas trop la vente à emporter, où on ne fait pas trop de click and collect, où on ne fait pas trop de livraison, voilà, à Mimizan c'est le cas, en dehors de la saison estivale évidemment, et bien ça fonctionne quand même, il y a des choses qui se mettent en place.
Prenons une minute pour être un peu positif, je crois que le vrai enseignement positif de toute cette période-là, c'est quand il vous manque quelque chose, vous en rendez compte de façon beaucoup plus significative quand vraiment ça vous manque. Et là on s'est rendu compte que les Français ont un vrai attachement à tout ce qui est local, à tout ce qui est du terroir, à tout ce qui est effectivement des savoir-faire. On a vu que ça nous manquait. On a envie de les retrouver, même si c'est dans une forme qui est un peu différente, parce que la mise en place, ou en tout cas le dressage de l'assiette, n'est pas pareil dans une boîte que sur une assiette. On a vu que les gens étaient quand même attachés à ça, avaient envie de retrouver ces saveurs du terroir. Et on a cette tendance lourde depuis mars, qui est le retour au local et à la proximité. Donc on verra après, en espérant le plus vite possible, l'après-Covid, le post-Covid. Ouais. Que tout ça aura un effet d'entraînement et qu'on retrouvera une vie...
Alors, vous allez voir qu'il y a des chefs qui font des trucs absolument formidables. Il y a un resto, par exemple, un restaurant 2 étoiles à Paris, qui livre dans toute la France, c'est le restaurant La Seine. C'est un extrait d'un reportage de Romain Oquet sur ce restaurant, qui livre dans toute la France, donc c'est assez inédit, on écoute.
Une trentaine de commandes à expédier. La salle feutrée du restaurant étoilé s'est transformée en zone de logistique.
Donc là, par exemple, vous avez 2 blanquettes de veau.
Conditionnées sous vide. Donc.
Tout est conditionné sous vide. Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément de restaurateurs, qui ont pu rester ouverts, de se faire livrer des petits repas. Voilà.
Après une nuit sur la route, dans un camion réfrigéré, l'un des colis arrive le lendemain près de Nantes, chez Noël et Bernard.
On ne peut pas bouger, on est confiné. C'était mon anniversaire. J'ai dit, tiens, on va faire ça. Et on recommencera, bien évidemment.
C'est sympa, ça, Philippe Etchebest, non ? Un 2 étoiles qui vient à la maison. On ne peut pas aller manger au restaurant, mais il y a le 2 étoiles qui vient à domicile.
Oui, alors après, d'ici à servir, desservir la France entière, c'est quand même un peu
ambitieux, c'est ambitieux.
Oui, c'est très ambitieux. Moi, je me contente de servir les Bordelais. C'est déjà très bien.
C'est déjà pas mal. Je voulais vous poser une question sur la fabrication, parce que moi, je suis un amoureux de la cuisine. Ça demande une organisation particulière de pratiquer les plats emportés, une cuisine différente. Vous faites des plats qui ne sont pas forcément ceux que vous allez faire en salle.
Alors non, justement, vous savez, moi j'ai une brasserie, j'ai une table étoilée de 10 couverts dans la même structure. Donc je fais des plats de brasserie à emporter dans des contenants effectivement recyclables. Enfin, on a vraiment une démarche par rapport à ça qui est très importante. Mais on arrive à sortir les mêmes plats dans des contenants différents et emporter avec une chaîne du froid, bien sûr. Alors, je ne fais pas de chaud, oui, parce que c'est mieux de servir froid et de réchauffer à la maison. Oui. Ça évite d'avoir au niveau hygiène, c'est mieux, c'est beaucoup mieux en tout cas. Et de faire des choses de qualité, hein, vraiment, on arrive à s'adapter, à faire des choses bien présentées avec de la couleur, avec du relief, du volume et avec des fiches explicatives, faire en sorte que les gens puissent reproduire de la meilleure manière possible leur dîner ou leur déjeuner.
Mais oui, parce qu'un bon plat, Philippe Etchebès, petite parenthèse, c'est aussi des belles couleurs, c'est aussi une belle présentation, n'est-ce pas?
Mais ça marche, on y arrive, franchement. Je peux vous assurer qu'on arrive à faire de très jolies choses à travers cette vente à emporter. Moi, pour les fêtes et pour les menus des fêtes Noël et le 31, j'ai fait même une vidéo pour expliquer aux gens comment dresser, sortir un petit peu à l'avance pour remettre à température. Il y avait un plat à mettre en place, c'est le plat principal, puis c'est ludique quelque part, voilà, c'est une manière de s'amuser un petit peu de manière très très facile et vraiment de faire du travail de qualité. Je pense que c'est, et pour l'avoir testé, c'est tout à fait possible.
Alors vous savez, ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est de s'appuyer sur la restauration collective pour faire marcher les cuisines des restaurants. Je vous dis ça parce que j'ai repéré une initiative dans le Maine-et-Loire de l'Office du tourisme de l'Anjou qui a lancé, moi je trouve que c'est une super initiative, ça s'appelle Mercredi, c'est ma boîte qui invite. Le principe est très simple, une fois par semaine, les entreprises sont invitées à commander des repas pour leurs salariés auprès des restaurants locaux. Hervé Beckham, réaction, c'est plutôt sympa. Ça.
Oui, c'est une des initiatives auxquelles vous faisiez allusion, de nombreuses initiatives qui existent, et elle est plutôt sympathique. Mais il y en
parce
a,
que c'est
y
vrai
a...
que là, il y a aussi un, peut-être parenthèse, mais c'est vrai qu'il y a aussi un paradoxe là quand même. C'est-à-dire que les restaurants collectifs pour les entreprises et les scolaires sont ouverts, avec des protocoles certes, et pas les restaurants. Donc c'est pour ça que je trouvais cette initiative intéressante.
Tout à fait. Et là, vous faites bien de parler de paradoxe et d'inéquité. Mais bon, c'est un autre sujet.
C'est un état de fait maintenant.
Oui, tout à fait. Mais il existe plein d'initiatives telles que vous venez d'évoquer pour permettre aux restaurateurs de valoriser leurs produits, de valoriser leur savoir-faire. Je sais qu'il y a des fournisseurs de notre secteur d'activité qui ont... inciter les maires de France à trouver des places gratuites pour les restaurateurs sur leur marché et de leur réserver
j'avais
de
noté
leur
ça aussi
la possibilité.
Du côté de Pont-l'Évêque, par exemple, le restaurant Normandie propose sur les marchés alentour des plats du jour, chauds ou froids à emporter. Bon, on ne réinvente pas la cuisine, c'est toujours la même chose qu'on vend, mais on le vend différemment et on va là où se trouvent les gens et où on a le droit de proposer cette cuisine. De quelle manière, Vangelis Panayotis, ça va changer le secteur de l'hôtellerie-restauration, cette crise qu'on est en train de traverser? Parce qu'évidemment, il y aura des morts à la fin.
Bah, espérons le moins possible quand même, parce que l'idée avant tout, c'est de préserver l'outil de travail et les savoir-faire. C'est ça le vrai grand danger qu'on a, c'est de perdre et de casser un peu cette industrie. Moi, je pense que plus la crise va durer longtemps, plus ces habitudes vont rester ancrées. C'est un peu le sujet. Si les choses finissent par revenir passablement rapidement à la normale, on va voir ce qu'on a vu à la fin du premier confinement. Les gens vont retrouver les restaurants, vont aller en terrasse parce que ça leur a beaucoup manqué et retrouver cette expérience peut-être plus complète. Et aussi garder peut-être pour le soir ou certains jours en semaine ou à d'autres moments la vente à emporter. Mais je pense que beaucoup de restaurateurs, parce que ça demande quand même des organisations différentes, vont peut-être devoir choisir s'ils peuvent maintenir les deux activités. Et probablement qu'ils reviendront sur leur activité traditionnelle.
Philippe Etchebest, chez vous du côté de Bordeaux et avec tout le réseau restaurateur que vous avez, vous sentez qu'il y a une angoisse, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir et sur la suite?
Énormément. Énormément. Oui. Les remontées du terrain, elles sont terribles. Les gens ne savent plus à qui se fier, ne savent plus quoi écouter. Tout le monde dit tout et son contraire. Et je peux vous assurer que les dommages collatéraux de cette crise vont être beaucoup plus importants que le virus en lui-même. On s'attend, et vous l'avez dit, je crois en préambule, qu'il y a 30% de faillite. C'est ce que j'avais annoncé déjà dès le mois d'avril, et mai. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un de pessimiste, et ni d'alarmiste, mais pourtant c'est la vérité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec le nombre de chômeurs qui va être en plus très important, à hauteur de 200, voire 250 000. Donc vous vous rendez compte, les traces que ça va laisser derrière, franchement, ça va être terrible. Et néanmoins, si on n'arrive pas à tirer un enseignement de tout ça, Parce qu'il faut, il faudra en ressortir des choses positives. Comme je vous dis, on s'adapte, hein, on fait preuve de résilience. Si on n'arrive pas à sortir des choses positives de ce qui s'est passé, ce sera encore plus terrible. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il va y avoir de la casse.
Et il va falloir que les Français peut-être vous soutiennent aussi. Je pense à Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, que j'avais reçue juste avant les fêtes de fin d'année, qui exhortait d'une certaine manière, avec beaucoup de spontanéité, les Français à consommer français, made in France, à favoriser l'agriculture française pour les fêtes. Il va un peu falloir faire pareil peut-être avec nos restaurateurs, aller au restaurant pour les soutenir.
Mais bien sûr, mais c'est lié, vous savez, le monde de l'agriculture, le monde agricole et tous nos producteurs sont liés à notre activité et souffrent aussi de nos fermetures. Donc forcément, mais je pense que, et là je ne suis pas trop inquiet, je pense que les gens vont revenir au restaurant parce qu'il y a une vraie envie. Vous savez, il y a une coupure, il y a le lien social qui s'est rompu depuis quand même plusieurs mois et les gens on souffre de ça. Aller au travail, passer une journée au travail, rentrer le soir sans pouvoir même pas boire un verre avec des amis ou dîner dans un restaurant, quelle tristesse. Ouais. Quelle tristesse, combien de temps on va tenir comme ça? Et psychologiquement, pour les Français, je peux vous assurer que c'est dur.
Oui, je vous confirme, c'est dur pour nous tous, bien sûr. Vangelis Panayotis, est-ce qu'on peut donner peut-être quelques chiffres quand même pour que chacun comprenne l'importance de ce secteur au-delà du plaisir qu'on a à aller chez le restaurateur ou au café? Combien ça représente d'emplois? Combien ça représente d'activités pour la Maison France?
Déjà, la France, au-delà du savoir-faire, de la vitrine que c'est, parce que la gastronomie, c'est quand même très important pour nous, on dit que l'ensemble du secteur, donc si on inclut tout le tourisme, l'hôtellerie, c'est 8% du PIB. On sait que l'agriculture, c'est 2 à 3% du PIB.
8% du PIB.
Donc on est sur une industrie qui est très fragmentée. Vous avez beaucoup de petites PME, presque des artisans, quand on est au niveau de la restauration. Et donc c'est extrêmement compliqué d'arriver à coordonner tout le monde et arriver à les aider efficacement, on en a parlé tout à l'heure.
Oui.
Mais c'est un tissu qui est aussi un tissu territorial. Il y a une vraie irrigation économique
à travers cette activité-là. C'est la vie de nos villages, de nos villes, de nos communes. Hervé Beckham, est-ce qu'on arrive à quantifier en termes d'emplois? Parce qu'il y a les emplois directs et puis il y a les emplois indirects.
Ah oui, c'est tout à fait quantifié. Et pour reprendre le même périmètre que vient d'évoquer Vangelis, le secteur du tourisme, dont le CHR représente près de 60%, le secteur du tourisme, c'est 2 millions de salariés.
2 millions de salariés, oui, c'est colossal, absolument colossal. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais revenir au point de départ de notre conversation. C'est cette réunion à Bercy avec le ministre Bruno Le Maire. Il y avait de la colère de la part des représentants dont vous faites partie, de la profession?
Ah mais vous savez, de la colère, oui, nous avons exprimé en tout cas fortement quelles étaient nos attentes et nos demandes. Maintenant, de la colère, je crois que l'ensemble de nos professionnels ont passé le stade de la colère. Aujourd'hui, ils sont complètement abattus. Ils en sont dans une certaine idée d'abandon, de lassitude. Et la colère, elle est dépassée. On est au-delà de la colère aujourd'hui.
Oui, une forme de désespérance. Philippe Etchebest, pour conclure, s'il y avait un message que vous souhaitiez faire passer ce soir à nos auditeurs et à nos auditrices.
Vous savez, aujourd'hui, on est fermé. Demain, on va s'apercevoir à quel point nous étions indispensables à la vie de la nation, ne serait-ce que par nos cotisations, rien que pour ça. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, on est les globules rouges de la France. Je parle de la restauration, mais je parle de l'artisanat en général. Et vous allez voir que ça va être quand même assez compliqué pour revenir à un niveau normal.
Bien, merci beaucoup et força pour les petits globules rouges et les petits globules bleus. Et on est avec vous vraiment de tout cœur, infiniment, à tous les restaurateurs, les bistrotiers, les cafetiers qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux, on pense à vous. Merci à mes invités. 19h50, merci. On se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. Ce soir, on vous racontera l'histoire secrète du printemps de Prague. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du Club des Idées à 19h52 et les archives d'Europe Soir, quand le passé éclaire l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle, vous le savez, le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Rémi Botsaron.
Bonsoir Julien.
Merci de nous avoir rejoints. C'est vous ce soir qui nous présentez les archives d'Europe Soir et on s'intéresse, je le disais juste avant la pause, au jour où le printemps de Prague a éclaté. C'était il y a 52 ans exactement, le 5 janvier 1968.
Oui, ce qui se passe ce jour-là en Tchécoslovaquie, c'est en fait une révolution politique avec la nomination d'un nouveau secrétaire général du Parti communiste. Il s'appelle Alexander Dubček et il a un programme, un projet. Il s'appelle le socialisme à visage humain. Ce qu'il veut, c'est démocratiser la vie politique, décentraliser l'économie, favoriser la liberté de la presse et la liberté d'expression. Bref, il veut donner une nouvelle orientation politique à son pays, avec le soutien notamment du directeur de la télévision tchécoslovaque, Jiří Pelikán, qui s'exprimait alors sur place au micro de la radio-télévision suisse.
Le sens de ces événements, ce n'est pas la révolution contre le socialisme, mais au contraire, c'est la renaissance du socialisme, c'est-à-dire de donner au socialisme le vrai sens du mot pour lequel nous sommes bâtis pendant la guerre et après la guerre.
Intéressant ce que l'on entend, car il dit ce n'est pas une révolution contre le socialisme. Et pourtant, l'URSS va très vite réagir.
Oui, l'espoir ne dure en fait que 6 mois, le temps d'introduire quelques réformes. Dans la nuit du 21 au 22 août 68, c'est l'invasion. L'URSS, la RDA, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie envoient plus de 6000 chars et 400 000 soldats en Tchécoslovaquie. Une répression que raconte sur Europe 1 le journaliste Gilles Schneider, qui se trouve alors à Vienne, en Autriche.
À Prague, la situation a tourné, on peut dire, très souvent au drame aujourd'hui. Il y a eu des fusillades. Des jeunes gens, par groupes plus ou moins importants, manifestent, notamment place Venceslas, sur la place de la vieille ville. Ils portent le drapeau tchécoslovaque et chantent l'hymne de leur pays. Ils crient « Vive la liberté !»« Vive Dubček !» Ils portent des pancartes et des banderoles sur lesquelles est écrit « Pourquoi faites-vous cela ?» Cela, évidemment, est adressé aux Russes.
Et c'est le même Gilles Schneider que l'on retrouve 6 jours plus tard. Cette fois, il est à Prague avec un micro caché sous le manteau et il enregistre la colère des Pragois.
Les manifestations commencent. Ils sifflent les chars russes qui prennent position sur la place.
Il décrit donc ces manifestants qui sifflent les chars et les soldats russes. Situation chaotique, tendue, émaillée par des coups de feu. Et au total, l'invasion de la Tchécoslovaquie aurait fait 90 morts.
Incroyable document que vous nous présentez ce soir. Et comment réagissent alors ceux qui avaient mené ce printemps de Prague ?
Mais ils appellent le peuple à ne pas résister pour éviter un massacre. On est alors le 27 août 1968 et cet appel est entendu par les Pragois qui décident de retirer les affiches hostiles aux soviétiques sous les yeux de Gilles Schneider.
Ces affiches donc ont disparu. Place Venceslas, les commerçants, les écoles de leurs vitrines. Et les étudiants font une grande toilette à la statue de Saint Venceslas qui était jusqu'à ce jour couvert de slogans. Un homme qui dirigeait un groupe a expliqué tout à l'heure pourquoi il faisait cela. Il nous a dit qu'il le faisait pour que les soviétiques n'aient plus de prétexte à rester en Tchécoslovaquie.
C'est donc la fin de la résistance, place à la résignation et à l'exode.
De nombreux Tchécoslovaques essaient de partir. L'ambassade d'Autriche nous a dit que 2000 personnes s'étaient présentées pour recevoir des visas dans la journée d'hier. La plupart du temps, ils sont refoulés à la frontière. Certains se cachent, d'autres espèrent encore au miracle. C'est la fin, disent la majorité de nos interlocuteurs. Ils savent maintenant que l'espoir de janvier et la joie de juillet ont disparu pour longtemps.
Et c'est bien la fin du printemps de Prague. Tous ceux qui avaient soutenu le mouvement sont alors écartés du pouvoir et de l'administration. C'est ce qu'on appelle la normalisation. Une chape de plomb s'abat sur le pays pour plus de 20 ans, jusqu'à la révolution de velours en 1989.
Formidable, formidable archive. Merci infiniment Rémi pour être revenu en quelques minutes sur ce moment d'histoire, le printemps de Prague. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, le rappel de l'info avec Élise Dangean et puis juste après Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien, ma star. Je t'ai regardé à la télé.
Oh, t'es
beau
gentil Émilie.
C'était génial, bravo.
Merci, c'est sympa. Bravo. Moi aussi, je t'écoute ce soir de temps en temps en rentrant sur mon vélo. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir comme programme ?
Alors, c'est pas mal pour une balade en vélo, hein, puisque ce soir, on reçoit le groupe Aaron qu'on avait découvert avec cette magnifique chanson U-Turn Lily. Ça peut être pas mal, faut pas pédaler trop vite,
ouais.
Mais ça peut être agréable.
Ouais.
Ils ont sorti à la fin de l'année dernière un nouvel album, Anatomy of Light, et ils viennent nous le présenter ce soir dans l'émission.
Nostalgie, nostalgie là sur mon vélo ce
ouais,
soir
c'est
en
joli.
Rentrant, je te raconte pas. Merci Émilie, belle soirée, belle
Merci.
Musique.
Merci.
On se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h évidemment, et on écoute le monde changer. Merci de votre fidélité, belle soirée.